En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Le passé, c'est le passé, je ne veux pas reparler.
Tu parles d'une connerie.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. Quelque part au cours de l'été 1931, un soir de noces, Pierre, un jeune instituteur de 21 ans, danse avec une jeune femme, Suzanne. Plus tard, il lui envoie une carte postale, sans un mot, sans signature, juste une portée et quelques notes, celles d'un air à la mode, sur lequel Suzanne et lui avaient dansé. À l'été 1933, Pierre et Suzanne sont à nouveau invités à des noces, les leurs cette fois, un jeune couple d'instituteurs de plus, lui dans l'école de garçons, elle dans l'école de filles de Saint-Martin-en-Bresse. Et puis la Deuxième Guerre mondiale éclate en septembre 1939, Pierre part pour le front. Quand l'armée allemande pointe le bout de son casque, il répare des lignes téléphoniques sous les bombes du côté de Sedan. Et quand l'officier qui commande son petit groupe reçoit un éclat qui lui emporte l'œil, Pierre prend la suite pour réparer la ligne. Un obus le souffle au sol. Il se luxe l'épaule pour la 17e fois de sa vie tout de même, à croire qu'il avait l'humérus baladeur. Mais la blessure n'est pas grave. Voilà Pierre expédié à l'autre bout de la France, au nord de Bordeaux, du côté de Royan. C'est là qu'il apprend que l'armistice est signé, là qu'il apprend que l'occupant a un message pour les soldats français. Tout militaire français pris avec son uniforme en zone occupée sera traité comme un prisonnier de guerre. Royan est en zone occupée, il ne faut pas longtemps à Pierre pour décider de déguerpir. Le temps de se mettre d'accord avec deux copains, le voilà sur les routes avec sa musette, un torchon de toilette et quelques sous. Direction la Bourgogne et Suzanne. Suzanne à qui pas un courrier n'a pu arriver depuis des semaines. Suzanne qui l'attend avec leur fils de 3 ans. En train d'abord, les trois compagnons progressent au hasard des aiguillages perturbés et des ponts détruits. Sous un ciel si bleu qu'on oublierait presque que les avions qu'ils traversent affichent une croix gammée sous les ailes. Au nord de Vichy, plus de train. Alors on prend son souffle et on continue à pied le long des chemins, loin des patrouilles et de cette foutue ligne de démarcation qu'il ne faut pas franchir. Pas avec ce foutu uniforme qui peut vous envoyer droit au stalag. On tente bien, parfois, de trouver un hôtel pour se laver, raser ses barbes hirsutes, mais c'est toujours non. Pas de soldats français dans les chambres, pas quand les Allemands patrouillent et qu'on ne sait pas trop à qui on a affaire. Alors on repart en maudissant la méfiance humaine. On dort dans des hangars à fourrage et on se réveille au Champ du Coq en évitant les fermiers. Et puis voilà qu'à un carrefour, Pierre et ses compagnons tombent sur une troupe de tziganes. Dans le lot, quelques hommes plutôt âgés. Et puis, pour citer Pierre, qui n'avait manifestement pas ses yeux dans la poche, une abondance invraisemblable de jeunes bohémiennes en longues robes bariolées, grands anneaux dorés aux oreilles, fleurs rouges piquées dans les cheveux. Menés par un vieil homme qui ne leur demande ni qui ni quoi, la troupe les cache dans ses roulottes pour échapper aux patrouilles. Et dans cet été, aux airs de songe, surgissent parfois quelques bonheurs minuscules. Un soir au camp, écrit Pierre, nous savourâmes le meilleur poulet au petit pois que j'ai jamais mangé, parfumé d'herbes sauvages fraîches, cueillies sur les bords de notre route. À un carrefour, les routes se séparent, on dit au revoir à ces sauveurs inconnus. Et puis un soir, alors que Pierre a les pieds en sang et ne marche plus qu'en boitant, le miracle, alors que les contours familiers de la Bourgogne se dessinent enfin, il y a ce père qui surgit de nulle part en voiture, prévenu par des connaissances qu'on a vues sur les routes à un bonhomme qui ressemble à son fils. Et voilà comment Pierre retrouve Suzanne. Et Suzanne commence par l'engueuler comme jamais de n'avoir pas su écrire avant de lui tomber dans les bras pour lui raconter sa débâcle à elle. Sa débâcle, ce sont les sirènes qui hurlent l'arrivée des Allemands dans la ville où elle surveillait l'épreuve du certificat d'études. Ce sont les colonnes du Reich qui défilent dans le village de Saint-Martin-en-Bresse. C'est l'odeur d'huile et d'essence des engins allemands. Ça court, envahi par une troupe de presque gamins à qui une jeune mère essaie de ne pas montrer qu'elle a peur. C'est la troupe ennemie qui fait sa popote dans la cantine et joue aux cartes sous le préau. C'est la barre de chocolat qu'un jeune soldat tente à son fils et qu'elle lui enlève plus tard parce qu'on raconte que les Allemands empoisonnent les enfants et qu'on ne sait plus qui croire. Pierre et Suzanne se sont retrouvés. Dans ses mémoires, Pierre écrit « Je ne me souviens plus de cette fin des grandes vacances de 1940. J'ai dû jardiner, préparer ma rentrée, résoudre le problème des fournitures scolaires. » Quand j'ai connu Pierre, il avait le pas maladroit, les cheveux blancs soigneusement peignés vers l'arrière. Quand j'ai connu Pierre, il jouait aux cartes avec le talent de Belzébuth, mangeait des repas sans sel et s'endormait dans son fauteuil devant le journal du soir. Quand j'ai connu Pierre, il montrait une infinie patience pour le gamin que j'étais, à qui il s'acharnait à apprendre et à lire et à compter, parce qu'il était toujours instituteur, et jusqu'au bout des doigts. Quand j'ai connu Pierre, c'était un vieux monsieur. Et si je suis heureux que cet homme, comme les autres, ait retrouvé le chemin de sa Bourgogne, c'est parce que Pierre, c'était mon grand-père. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelque chose dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
Allô ? Je t'entends pas.
Ah, moi, allô ? Je t'entends très bien.
Allô, allô ?
Ah, ben ça y est, ça marche maintenant. Du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Tu sais, c'est aussi les vacances des radios. Ce week-end, c'est la dernière chronique de JC.
Voilà, et il fait un truc sur Pépé.
Eh ben, il m'a raconté ça parce qu'il m'a demandé le lieu, enfin le village, où papa était revenu auprès de ma mère et de son fils, quoi.
D'accord, mais t'as pas plus d'infos.
Non.
Toi, t'en as d'autres ?
Ben non, justement, c'est bien mystérieux,
mais c'est cool.
Nova.